En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur la première radio de France. Bonne année à toutes et à tous. Tiens, bonne année Sidonie, je vous fais une bise.
Ah, c'est sympa. Ah, c'est deux carrément, donc j'en aurai pas en 2018. Bonne année à vous les curieux, que cette année vous soit la plus agréable possible. On sera là à vos côtés chaque soir. Quel est le programme de cette première curiosité 2017,
Thomas ? Bonne question forcément existentielle. Qu'est-ce qui est propre ? Qu'est-ce qui est sale ? Qu'est-ce qui sent bon ? Qu'est-ce qui sent mauvais ? Il sera question de chimie, d'histoire, mais aussi et surtout de différences culturelles pour trouver des réponses.
Et tout de suite, on entre dans le monde magique de Walt Disney.
RTL.
Le musée Art Ludique présente en première mondiale l'exposition « L'art des studios d'animation Walt Disney, le mouvement par nature ».
La curiosité est un vilain défaut.
Découvrez plus de 400 œuvres originales, jamais exposées en France. Ce parcours immersif vous fera partager l'esprit visionnaire et le talent éblouissant des artistes des studios depuis près d'un siècle.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est une exposition magnifique présentée en première mondiale qui retrace près d'un siècle de création des studios Disney. Isabelle Schmitt, bienvenue.
Plaisir de vous
très
trouver.
Heureux de vous retrouver dans notre cabinet de curiosité. Vous publiez un hors-série du Figaro consacré à Disney, c'est en partenariat avec RTL. Tiens, on va démarrer, on aime bien démarrer par les anecdotes. Pour commencer, ça remonte à l'enfance de Walt Disney. Combien de livres possédaient ses parents ?
Alors la légende dit que ses parents possédaient uniquement deux livres, la Bible et un livre de contes, dont sa mère lisait au petit Walt au moins un récit par jour et qui a vraisemblablement animé son enfance et qui l'a sauvé de choses un peu moins drôles qu'on évoquera peut-être.
Pourquoi ? Parce qu'il vient d'une famille pauvre, hein, il vient d'une famille difficile.
Alors c'est une famille effectivement qui n'est pas riche. Le père de Walt, qui s'appelle Elias Disney, est un entrepreneur, mais malheureusement, ne réussit pas dans ce qu'il entreprend, donc on peut dire que c'est un loser, malgré ses nombreux efforts pour essayer de faire vivre sa famille. Il vivra un moment à la campagne dans une ferme, ce qui sont a priori les seules années heureuses et paisibles de Walt, qu'il exaltera ensuite dans ses films par la présence de la nature particulièrement importante. Mais ensuite, à l'âge de 10 ans, il déménage et il s'installe à Kansas City. Et là commence pour Walt une enfance qui n'en est pas une, en fait, parce que pour aider la famille, le père met ses fils à contribution pour distribuer des journaux. Et donc Walt, à 11 ans, se lève à 3h du matin pour aller distribuer des journaux avant d'aller à l'école.
Et Walt Disney, à 14 ans, on est en 1915, il assiste à une projection à Kansas City. De quel film s'agit-il et qu'est-ce que ça va provoquer ?
Alors, Walt Disney assiste à la projection de Blanche-Neige, le film tiré du conte, et il se retourne, il est au cinéma fasciné, il entend les rires des enfants, leurs frissons quand ça fait peur, il se retourne et à voir en fait la tête ébahie de ses jeunes camarades, il réalise que la puissance du cinéma en fait. Et c'est sans doute là que germe cette idée de traduire les contes au cinéma.
C'est une légende américaine, Walt Disney, et pourtant il a toujours été inspiré par l'Europe et notamment par la France. Comment il a découvert notre pays ?
Alors, il a découvert notre pays en s'enrôlant pendant la guerre. En fait, il a menti sur son âge, il a triché parce qu'il avait 17 ans. Normalement, il n'aurait pas pu s'engager dans l'armée. Mais son frère aîné s'étant engagé, lui aussi voulait connaître l'aventure. Et donc, il fait tout ce qu'il peut pour être accepté comme ambulancier. Manque de chance pour lui, il arrive et la paix est déjà déclarée.
Oui, parce qu'il est né en 1901, donc 17 ans, 1918, on est à la fin de la guerre.
Voilà, on est à la fin de la guerre, il arrive et donc c'est un fiasco parce que voilà, il se retrouve en France, mais il ne voit pas la guerre.
En revanche, il
se promène. Exactement, il se promène beaucoup, il visite, il va peut-être à Isigny parce qu'on dit que sa famille serait originaire d'Isigny, de Normandie. Et en tout cas, il profite de ce voyage en France et en Europe pour acheter tous les livres qu'il peut sur les contes. Justement, les livres de contes, là, il en découvre beaucoup plus qu'un. Mm-hmm. Et c'est le début d'une vraie passion européenne qu'il n'aura de cesse d'entretenir.
Et qu'on retrouvera d'ailleurs dans les décors de certains de ces films. C'est assez intéressant de voir que dès l'enfance et dès l'adolescence, il y a en germe ce qui sera l'œuvre de Walt Disney. Mickey Mouse, qui est le personnage emblématique, iconique aujourd'hui de Disney, c'est même la marque, hein. Est-ce que c'est le premier personnage qu'il a dessiné, qu'il a créé ?
En fait, non, ce n'est pas Walt Disney qui a dessiné Mickey. Ah oui. C'est Hub Iwerks, ou Iwerks, qui était son ami et son associé. Mais en fait, Mickey n'est pas le premier personnage que Hub Iwerks a dessiné avec l'accord de Disney, à la demande de Disney, puisqu'ils avaient au départ lancé un autre personnage qui s'appelait Oswald, le lapin chanceux. Et,
alors, donc des Oswald, grandes oreilles aussi, mais un lapin.
Voilà, on a reproduit dans le Figaro hors série des reproductions, des dessins d'Oswald, le lapin chanceux. Vous verrez qu'il se ressemble quand même énormément avec Mickey Mouse, sauf la forme des oreilles. Celles du lapin sont bien plus allongées et celles de Mickey sont rondes. En fait, pour des histoires de droits avec Hollywood, Disney en fait ne peut pas, demande à être mieux payé, tout simplement par le producteur qui distribue ce Oswald le lapin chanceux, cette première petite série qui fait un carton. Le producteur refuse et donc Disney s'en va, mais ne peut plus exploiter Oswald le lapin chanceux.
C'est presque sa chance d'ailleurs.
Et donc il va créer un nouveau personnage. C'est en 1928 que naît la petite souris Mickey dans un dessin animé intitulé Steamboat Willie. Alors, moi je l'ai revu récemment parce que j'ai visité l'expo du musée Art Ludique, donc j'ai les images en tête. C'est vraiment le Mickey des tout premiers temps qui est aux commandes d'un petit bateau, et puis on voit les sirènes qui réagissent un peu comme des personnages qu'on pourrait croire vivants. C'est un succès immédiat, ce Steamboat Willie, ça marque les esprits parce que c'est novateur, et ça c'est un élément important de toute la création de Disney. Pourquoi c'est novateur ?
Alors, c'est novateur parce que ce dessin animé parle. C'est un prodige. Le dessin animé existe déjà depuis au moins une dizaine d'années. Les gens sont habitués à en voir, aiment beaucoup ça. En général, ça intervient en première partie avant les films, au cinéma. Mais en général, c'est on appelle un pianiste ou un orchestre pour jouer pendant le dessin animé. Et là, Disney a synchronisé la bande sonore avec la bande du dessin animé. Donc on voit, c'est les personnages qui s'animent, qui parlent, on entend l'eau qui arrose Mickey. Et donc tous les bruitages, les bruits, les répliques sont en même temps que le dessin. Et ça, ça captive totalement les gens.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
RTL.
Hakuna Matata, make it from magnifique. Hakuna Matata,
regarde Lyon, ne te trompe pas de voix.
Je voudrais déjà être roi.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On a tous en nous quelque chose de Walt Disney, c'est vrai, hein, on reconnaît tous un extrait, on a tous comme ça une petite musique qui nous tient à cœur. Walt Disney, passeur d'histoire, c'est le titre du Figaro hors-série, publié en partenariat avec RTL à l'occasion de l'exposition du musée Art Ludique qui consacre son exposition au studio d'animation Disney. On peut y découvrir 400 œuvres majeures. Isabelle Schmitz, nous sommes avec vous et on est en 1934. Walt Disney veut produire son premier long-métrage d'animation, Blanche-Neige et les Sept Nains. Siffler en travaillant, c'est une bonne idée,
ouais,
ça, Thomas. Comment Walt Disney a parlé de ce projet à ses collaborateurs en 1934 ?
On est en 1934 et Disney invite ses collaborateurs à dîner et leur dit rendez-vous dans 2 minutes à l'auditorium. Et à l'auditorium, il se met sur la scène et lui tout seul mime toute l'histoire de Blanche-Neige. Il fait tous les personnages, les bruitages, les mimes, etc. Et de 20h à minuit, il tient son équipe en haleine pour leur raconter.
Il est même quasiment en larmes, c'est ça, à un moment.
Oui, ouais. Au moment de la mort de Blanche-Neige, il est en larmes. Les témoins disent qu'ils ont vu de vraies larmes couler. Il vit totalement l'histoire et il emporte l'enthousiasme de son équipe d'animation et il les entraîne pour une aventure qui va durer 3 ans.
3 ans de fabrication de Blanche-Neige et les Sept Nains, ça va être un incroyable succès. Pourtant, ce premier long-métrage va se faire dans la douleur, toujours en raison de sa perfection.
Je vous parlais de son perfectionnisme, effectivement. Pour vous donner une idée, on a entendu une des chansons mythiques de ce long métrage. Je crois qu'il en retient 8 au final, mais il en faut composer 30. Donc il y a 30 chansons qui ont été fabriquées pour aboutir finalement à 8. Et pour les dessins, c'est absolument pareil. Il y a une scène également mythique, mais que peu de gens ont vue, qui est le moment où les nains mangent leur soupe, qui ne fait pas partie du film en fait, qui est restée dans les bonus, parce que tout simplement, ils n'ont pas eu le temps de mettre la scène, de coloriser la scène. Il fallait chaque scène demander un travail fou. Et après déjà 3 ans de travail, tout Hollywood ricanait, parlait de la folie Disney. Voilà, il est devenu fou. Ça fait 3 ans qu'ils travaillent tous sur ce film. Il y a 700 personnes qui travaillent. Et voilà, 3 ans après, on n'a rien vu. Et donc finalement, les financiers, le producteur, tout le monde somme Walt Disney de sortir son film. Et il le sort avec le succès qu'on connaît. Mais évidemment, ça ne s'est pas fait sans douleur.
Ouais. Un grand succès public. Un succès aussi de la critique, reconnu par ses pairs, puisque ce film reçoit un Oscar d'Hollywood. D'ailleurs, l'Oscar est amusant parce qu'il reçoit un Oscar plus 7 petits Oscars comme les 7 nains. C'est ce qu'on entend, ce qu'on apprend dans l'expo du musée Art Ludique notamment. Isabelle Schmitt, c'est quoi les étapes de la création d'un film comme celui-là? J'imagine ça commence tout simplement par un scénario.
Alors voilà, ça commence par un scénario. Je vous l'ai dit, Disney lui-même avait raconté le scénario à ses équipes. Et ce scénario ensuite est traduit en images. C'est ce qu'on appelle le storyboard.
Là, donc ça, c'est comme quoi? Comme une planche de bande dessinée, mais sans les textes, sans les bulles.
Sans les bulles, exactement. Ce storyboard fait office de scénario en images. Et puis ensuite, il y a une mise en scène qui est faite, en fait, parallèlement à ça. On crée un style graphique. C'est-à-dire qu'on décide, en marge de l'image, en parallèle, dans quel univers on va faire exister les personnages. Vous parliez des décors de Blanche-Neige, je crois, on les évoquait. Blanche-Neige, par exemple, pour Blanche-Neige, Disney s'est inspiré, les animateurs qui ont travaillé se sont inspirés de l'univers médiéval de la Dame à la Licorne. Ceux qui connaissent le musée de Cluny à Paris ont pu voir la tapisserie de la Dame à la Licorne. Mais quand on voit la méchante reine avec sa silhouette très allongée, en fait, elle fait penser aux silhouettes des femmes médiévales qu'on trouve sur les tapisseries. Tout ça, c'est donc la mise en scène et l'univers graphique qui est défini.
Puis, alors, les couleurs aussi, j'imagine qu'il faut choisir le code couleur, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas du film.
La palette.
Oui, la palette, bravo.
La palette du film.
Pierre Lambert, heureusement qu'on est deux.
C'est pour ça.
Que dans les anciens Disney, un seul personnage était fait par 17 ou 18 couleurs pour un seul personnage. Et aujourd'hui, il y a moins de couleurs. C'est peut-être notamment pour ça que l'esthétique est un peu moins fine que lors de la grande époque de Walt Disney.
Alors, une fois qu'on a tout ça, le matériel, les matériaux, les couleurs, le storyboard, il faut les dessinateurs. On a compris que ce n'était pas Walt Disney qui dessinait tout seul. Une équipe de combien de dessinateurs? Et comment faisait-il Walt Disney pour uniformiser ses différents dessins?
Alors, ils étaient des centaines de dessinateurs. On les appelait les animateurs. C'était d'ailleurs ceux qui étaient les mieux payés. C'est un détail intéressant parce qu'aujourd'hui, les mieux payés sont les vedettes. Si Gad Elmaleh donne sa voix à je ne sais quel personnage de dessin animé, c'est lui qui va être mieux payé que l'animateur qui travaille dans l'anonymat et qui dessine, qui produit ses dessins. Du temps de Walt Disney, c'était les animateurs qui étaient vraiment les stars. Et il y avait, donc ils étaient d'abord quelques-uns, une dizaine, plusieurs dizaines, plusieurs centaines, et en fait il y avait des animateurs en chef qui coordonnaient tout ça, et au final Walt Disney lui-même donnait vraiment la trame, validait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait une gestion très personnelle des choses, puisqu'il confiait par exemple les personnages à dessiner en fonction du caractère des animateurs. Si vous en aviez un colérique, il lui confiait un personnage de méchant. Ceux qui ont vu Dumbo se souviennent.
Oh, mais qui n'a pas vu Dumbo?
Voilà,
j'adore
du moment
Dumbo.
Où la maman de Dumbo, le berce, c'est lui chante.
C'est le moment le plus émouvant du film. Hein.
Voilà, une très jolie chanson.
Comment l'animateur alors?
Mais l'animateur avait un fils de 2 ans. il s'est inspiré des expressions du fils de son fils de 2 ans pour dessiner Dumbo.
Fort intelligent tout ça.
Voilà, fort intelligent.
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.
RTL. Les odeurs de transpiration sont surtout causées par les bactéries sous vos aisselles. C'est pourquoi nous avons créé le nouveau...
Depuis l'Antiquité, il y a des odeurs que nous n'aimons pas, c'est des odeurs putrides, parce que ça rappelle aux humains leur condition de mortels voués à la putritude.
La curiosité est un vilain défaut.
Une protection contre les bactéries et les mauvaises odeurs. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Qu'est-ce qui est propre Qu'est-ce qui est sale? Qu'est-ce qui sent bon? Qu'est-ce qui sent mauvais? Pour
dans
répondre
studio à... Non, on n'est pas là.
Non, en général, On va commencer à... On va éviter les questions personnelles pendant ce thème, si vous le voulez bien, Sidonie. En tout cas, pour répondre à ces questions toutes simples, on peut faire appel à la science, à l'histoire, à la sociologie et surtout à un magazine qui s'y connaît, le magazine Né. Delphine de Swaard, experte du parfum, enseignante à l'université de la Sorbonne Nouvelle, vous publiez l'un des articles du magazine Né, consacré au propre et au sale. Le titre de votre article, hein, je cite, c'est « Je pue, donc je suis ». Pourtant, on ne sent pas notre propre odeur. Tiens, on commence par ça. Pourquoi on ne sent pas son odeur?
En fait, le système de l'olfaction, c'est un système qui est fait pour détecter. C'est un système d'alarme. Et en fait, si on était en permanence en train de se sentir, en train de nous sentir, ça saturerait nos récepteurs et on ne pourrait plus prêter attention aux odeurs qui arriveraient, potentiellement source de danger. Donc, on fait une mise au neutre de notre propre odeur, mais aussi de notre habitat, ce qui fait que souvent, on oublie l'odeur de chez nous. Et quand on part...
C'est vrai pour le travail aussi. Il y a des métiers qui sont confrontés à des odeurs très, très dures. Les métiers médicaux, par exemple, ils oublient? Ils ne se rendent plus compte qu'ils ont ces odeurs autour d'eux?
Non, pas tout à fait. En fait, un anthropologue qui s'appelle Joël Kando, qui a été interviewé pour le magazine Né par Léonore de Bonneval, montre très bien que ces professionnels sont encore choqués par cette odeur. Parce que, d'abord, selon les morts, les cadavres ne sentent pas la même chose. C'est une des odeurs les plus insoutenables. Composé d'azote, de soufre, de putrescine, de cadavérine, qui sont intolérables parce qu'elles témoignent de notre devenir aussi. Et elles sont toxiques, hein, des odeurs azotées, soufrées, c'est toxique pour le corps humain. Donc ces professionnels, même s'ils sont habitués et tous les jours ils sentent des cadavres, continuent de ne pas accepter cette odeur. Et le professeur Kando raconte qu'il avait interviewé un thanatopracteur qui tous les matins, avant de travailler, vomissait et ensuite se remettait au travail. Donc on ne peut pas s'habituer à cette odeur. Il y a même des techniques, hein, on met sous le nez des odeurs
de l'eucalyptus. Faut rappeler ce que c'est, un thanatopracteur. C'est quelqu'un qui embaume les corps des personnes décédées. Vous nous avez donné la composition de cette odeur de mort très précise. Il y a de l'azote, il y a du soufre. Est-ce que ces ingrédients-là, on les trouve dans toutes les mauvaises odeurs?
Oui, les atomes de soufre et d'azote se retrouvent dans les mauvaises odeurs, sont les marqueurs de mauvaises odeurs. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise odeur? Parce qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise odeur en tant que telle. A priori, il y a des odorants qu'on perçoit et que le cerveau transforme en odeur. Ouais. Et ensuite, la culture, notre éducation va faire qu'on va classer des odeurs en bonnes ou mauvaises. Ce qu'on appelle classiquement une mauvaise odeur, c'est une odeur de corps qui s'oublie. En fait, on dégage, on sécrète. Et sur cette odeur, sur ces sécrétions, il va y avoir des bactéries qui vont dégrader la sueur, par exemple, qui a priori est inodore. Hein, la sueur, c'est de l'eau, des sels minéraux un peu durés. Et c'est les bactéries qui vont transformer ça en une odeur nauséabonde.
Mais elles arrivent au bout de combien de temps, ces bactéries?
Elles sont présentes et surtout elles sont favorisées par les milieux chauds, donc les aisselles,
le petit pullover.
Voilà.
Et alors, ce qui est intéressant, et c'est le thème du dossier du magazine Né, la revue olfactive Né, c'est qu'on associe la propreté et la saleté aux odeurs. Et alors, vous dressez une liste de ces choses qui sentent mauvais. Ça commence par les cheveux sales. Alors, on y trouve quoi comme composant malodorant dans les cheveux sales?
Alors, il y a pas mal d'acide gras. Ouais. Dans les cheveux sales, on a de l'indole, qui a une odeur fécale. Ce qui est drôle, c'est qu'on le retrouve aussi dans une fleur qui pourtant sent bon, le jasmin.
Ah oui.
Oui.
C'est pas le même dosage, quoi.
C'est exactement, voilà, c'est ça. Ça dépend des dosages. Il y a aussi de l'acide butyrique qui sent le fromage rance. Et dans la parfumerie, on utilise aussi ces molécules. Et comme vous le disiez, selon les dosages, et il y a aussi des ingrédients qui sentent le cheveu sale, comme le costus, qu'on utilise en parfumerie. Donc la frontière entre les bonnes et les mauvaises odeurs, elle est très ténue.
Oui, c'est drôle ça. Je vais faire tous les tupus de la liste. Hein. Donc il y a les cheveux sales, il y a la sueur, les excréments, les flatulences, les pieds, l'urine et la mauvaise haleine.
On est bien, on n'a rien oublié là.
Voilà, on a tout. On est évidemment pas tous égaux face aux mauvaises odeurs.
Non.
C'est quoi ? C'est de la génétique quand même, il y a de la chimie là-dedans.
C'est de la on a tous une flore bactérienne qui est unique. Chacun d'entre nous a une flore bactérienne qui fait notre signature.
Avec des millions de bactéries, c'est énorme.
Bah oui, et c'est microscopique, ouais, bien c'est sûr. Énorme. Ça vit sur nous, ça vit en symbiose avec nous et ça dégrade notre sueur. On sait aussi que l'alimentation a une influence sur notre odeur selon les épices qu'on va manger, le cumin ou l'ail et l'oignon vont
mais ça, c'est
parfumer
juste...
notre haleine.
Mais c'est juste pour l'haleine. Ou ça peut être aussi, ça peut ça parfumer dépend, la sueur.
Si vous faites un dîner à la mousse d'ail, par exemple, je peux vous dire que la sueur sent l'ail.
Un dîner à la mousse d'ail.
Mais oui, il faut faire des gags avec les copains. Des fois, on fait des trucs. Quand on a des copains cuisiniers, on peut faire des trucs dingues. Par exemple, un week-end de mousse d'ail.
On mange que
je peux vous dire que le retour en train, le wagon est vide. Hein.
On a de la place
on
pour s'allonger.
Hein. Personne ne vient avec vous.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.